L'Australie brûle. Le milliard d'animaux morts a été dépassé. Vu l'ampleur du désastre, cette situation nous concerne tous. Mais nous pouvons aider. Vous pouvez faire un don à l'association Wire Wildlife Rescue et venir en aide aux animaux sauvages en Australie. Liens et informations complémentaires sur le www.radiopulse.fr. www.radiopulse.fr.
Bonjour et bienvenue sur Radio Pulse. Alors aujourd'hui je suis avec Eric qui va nous faire part de son point de vue sur les feux d'Australie. Bonjour Eric.
Bonjour.
Tout d'abord, comment vivez-vous ces chiffres? Plus d'un milliard d'animaux sont morts et plus de 5 millions d'hectares sont partis en fumée, l'équivalent de deux fois la Belgique.
Mais en fait on n'arrive même pas à appréhender ces chiffres-là. Au-delà de 2000, j'arrive pas à me représenter. 10, je vois bien que c'est les doigts au bout de la main. En fait, j'ai besoin d'avoir des comparaisons. Et ce qui crame en Australie, je crois que c'est 6 fois supérieur à ce qui a cramé cet été en Amazonie. C'est la folie. En plus, c'est un coin d'Australie où je suis allé. Donc j'imagine les paysages complètement ravagés que je trouvais magnifiques étaient encore sauvages parce que c'est très peu densément peuplé. Et tout ça, ça crame. C'est démoralisant, ça dépasse l'entendement, ces chiffres.
Quel sentiment ressentez-vous du coup par rapport à tous ces chiffres, par rapport aux photos qu'on peut aussi voir?
Je suis dépité, quoi. On court vers la catastrophe. Et on peut blâmer le gouvernement australien des climato-sceptiques, mais les Australiens ont voté pour ce gouvernement-là, ils l'ont choisi. Et globalement, on peut rapporter ça au comportement des humains sur l'ensemble de la planète, où on court toujours vers l'abîme, on va s'enfoncer, on continue, parce qu'on n'a pas peur. Je pense qu'aux prochaines élections, les Australiens, eux, aux élections qui vont arriver, ils vont changer d'avis, parce que là, ils ont eu peur. Mais globalement, sur la planète, malheureusement, on a besoin de cette logique de catastrophe pour changer. C'est ça qui est effrayant.
Comment expliquez-vous le fait que les médias en parlent très peu ?
Je vais faire mon complotisme, mais les médias en France, ils sont tenus par des milliardaires, les milliardaires qui souhaitent qu'on continue à consommer. Donc l'écologie, c'est l'ennemi de la consommation, si on veut être clair. L'écologie, la vraie écologie, c'est la décroissance. C'est consommer moins, consommer mieux. Et les logiques qui sont en place maintenant, qui régissent le monde, le grand capital, elles veulent pas qu'on consomme moins. Elles veulent qu'on continue à consommer à outrance pour enrichir ceux qui sont en place et ceux qui possèdent les médias. Voilà, je sais que j'ai l'air d'un complotiste, mais si on regarde un peu plus près, c'est difficile de me donner tort.
Et du coup, pour vous, quelles sont les causes de ces incendies ?
Les causes, alors apparemment c'est des causes naturelles, parce qu'il faut se rappeler quand même en Australie c'est l'hémisphère sud, donc c'est l'été en ce moment.
Oui.
Sauf que avec le réchauffement qu'on vit, il y a moins de précipitations, donc plus de sécheresse, donc des écosystèmes qui vont plus facilement tomber dans les incendies parce que ça sèche. Ça serait contre-productif de ma part de dire que c'est directement lié au réchauffement climatique, parce que là c'est un épisode météorologique, c'est ponctuel. Le climat c'est sur plusieurs décennies, sur plusieurs siècles même. La météo c'est des phénomènes ponctuels, c'est au jour, à la saison, voilà. Par exemple, ça serait débile de dire c'est à cause du réchauffement climatique que ça brûle en Australie, tout comme c'est tout aussi débile ce que dit Pascal Pro quand il dit il n'y a pas de réchauffement climatique parce que au mois de mai à Paris il fait moins 3 degrés. Ce sont des épisodes météo, mais le réchauffement, enfin ce qui se passe en Australie, c'est complètement logique, c'est complètement raccordé avec cette courbe de réchauffement climatique. C'est raccord avec ce que prévoit, avec ce que disent les scientifiques qui s'occupent du climat. Voilà.
J'ai également lu que c'était aussi volontaire dans le sens où il y a beaucoup d'habitants qui jetaient justement leurs cigarettes encore allumées dans les bois.
Oui, c'est partout pareil dans le monde entier. Il y a toujours des gens qui jettent des cigarettes, mais ça ne déclenche pas des incendies aussi immenses que ceux qu'on voit. C'est pas forcément criminel, c'est involontaire, c'est stupide. Mais ça, il y en a partout dans le monde. Et ces feux qu'on voit en Australie sont augmenté par le fait qu'il y ait cette sécheresse en ce moment.
Please help me find my way home.
Le 5 janvier, les pompiers luttaient contre 150 feux, dont une soixantaine hors de contrôle. À votre avis, pourquoi ils parviennent pas à contenir tous ces feux ?
Bah, l'Australie, c'est un pays qui est peu densément peuplé. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de monde au mètre carré, donc pas forcément beaucoup de pompiers au mètre carré, pas forcément beaucoup de matériel. Donc, il y en a qui sont hors de contrôle, tout simplement parce qu'ils disent, bah, là, il n'y a pas assez d'habitants, donc, ou même pas du tout d'habitants. Donc, on laisse faire et on se concentre, nous, les pompiers, avec nos effectifs et notre matériel, sur les zones qui sont peuplées. Donc, il y a des zones qui sont hors de contrôle, c'est logique.
Que faudrait-il pour arriver à bout de ces incendies ? Quelles solutions pourraient être mises en place ?
Alors, les incendies actuels, là, je pense que les Australiens ils font ce qu'il faut. Puis même moi, je ne suis pas sur place, je ne peux pas juger, je ne suis pas pompier. Je pense qu'ils font ce qu'il faut, ou je ne suis pas au courant, je n'ai pas de solution pour ça. Mais je sais que globalement, si on veut qu'il y ait moins d'incendies, que le monde arrête de brûler, il va falloir complètement changer notre économie. J'ai lu quelque part, et la phrase est très forte, c'est pas le feu qui brûle l'Australie, c'est le capitalisme. C'est notre modèle de société qui transforme les ressources naturelles en déchets pour faire de l'argent et sans forcément améliorer notre qualité de vie. Ce qu'il faut changer pour que l'Australie arrête de brûler, c'est notre façon de consommer. C'est consommer moins. C'est ça l'idée.
Oui, j'ai aussi lu dans certains commentaires qui disent « On parle de catastrophe naturelle causée par l'humain ». Qu'en pensez-vous ?
Catastrophe naturelle causée par l'humain. Alors, qu'est-ce qu'on entend par naturel ? Est-ce que le réchauffement climatique auquel on assiste maintenant est naturel ? Il ne l'est pas, hein, puisque le GIEC le dit, on ne peut pas concevoir le réchauffement climatique comme il est aujourd'hui sans facteur anthropique, c'est-à-dire sans mettre dans toutes les équations les activités humaines. Donc, le réchauffement climatique n'étant pas naturel, puisque causé par l'homme, on peut affirmer que ce que vit l'Australie n'est pas naturel. Voilà, c'est comme ça que je peux analyser la chose.
Et du coup, pour en revenir à ma question précédente sur les pompiers qui luttaient contre les 150 feux, est-ce que l'aide de, je ne vais pas dire tous les pays, mais de beaucoup de pays peuvent permettre de maîtriser le feu ?
Ouais, probablement, on peut envoyer plus d'hommes. Est-ce que les Canadairs peuvent traverser les océans comme ça ? Oui, peut-être. S'il y avait plus d'hommes à venir éteindre les incendies, peut-être. On pourrait faire quelque chose, ce serait effectivement une solution. Mais si on envoie encore des bateaux et des hommes, c'est encore du carbone qu'on rajoute dans l'atmosphère. Il faut réfléchir aussi à ça. Alors, je sais pas. Je suis pas compétent pour te répondre, en fait.
Suite à ces incendies, certaines villes, dont celle de Canberra, qui est devenue la ville la plus polluée du monde en raison des fumées qui proviennent des brasiers proches. Quels sont les risques avec cette pollution ?
Alors là, c'est des risques pour la santé, on va dire. C'est comme si, j'imagine, comme s'ils fumaient 3 paquets de cigarettes par heure, j'imagine, à Canberra. Donc ça doit être certainement les mêmes problèmes pour la santé humaine. Mais c'est pareil, je suis pas médecin, ça serait malhonnête de ma part d'essayer de te répondre parce que je vois pas quelles conséquences directes ça peut avoir sur la santé. Mais certainement que beaucoup d'habitants de Canberra, et je n'ai aucune idée comment on prononce le nom des habitants de Canberra, les Canberriens, je sais pas, ils vont avoir des gros problèmes respiratoires. Les personnes déjà fragiles vont être encore plus fragilisées. Ça va, sur le moyen terme, peut-être provoquer des morts prématurées. Enfin, ça serait complètement logique. Et puis après, sur la santé environnementale, ben là, ils vont mettre plusieurs années à se remettre pour que l'environnement se remette de ça. Peut-être que ça ne se remettra pas sans assistance de l'homme, sans qu'on aille planter des arbres, etc. Mais est-ce que l'environnement australien peut se remettre, sachant que maintenant, le climat sera de plus en plus chaud là-bas ? Enfin, là-bas et sur Terre, d'ailleurs. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça non plus.
Cette pollution avec les vents, elle va se propager. Du coup, il y a un risque pour d'autres pays ?
Alors, ça va se propager, ça va se diffuser comme... Toutes ces molécules de carbone qui ont été rejetées par les incendies, ça va contribuer, ça va alimenter le réchauffement climatique. Oui, parce que ce qui brûle en Australie, ça se retrouve diffusé par les vents à la surface du monde entier. Donc, ça va augmenter le réchauffement climatique, comme si on avait besoin, quoi.
« Eh bien, vous êtes toujours sur Pulse 90 FM, une édition exceptionnelle de Celle-là locale. Aujourd'hui, nous la consacrons en grosse partie au feu en Australie, puisque notre ami Eric, animateur de l'émission Pause Vélo, chaque mercredi à 20h sur les ondes de Radio Pulse, a accepté de répondre aux questions d'Audrey.
Certaines personnes utilisent le mot apocalyptique pour définir ces incendies. Quel est votre avis sur ce mot ?
Ouais, apocalypse. Si on considère l'apocalypse comme la fin du monde, c'est un des prémices de notre fin du monde. Pas des humains, pas de la planète, mais de notre mode de vie. Où on vit dans un monde qui n'est pas soutenable, et les incendies, les moindres rendements en agriculture font partie de cet apocalypse. On est en train de détruire l'environnement, l'écosystème qui a permis à l'Homo sapiens d'apparaître comme espèce et de prospérer, et on est en train de détruire ça, de rendre notre monde plus vivable pour notre espèce, donc de créer notre apocalypse.
Du coup, il faudrait changer certains modes de nos vies, en fait. Certains modes de vie pour pouvoir, je ne vais pas dire arranger les choses, mais pour pouvoir solutionner dans la vie future.
Tu as tout dit. Je ne vois pas comment on peut faire pour que l'homme continue à être heureux, à prospérer. On est obligé de changer notre mode de vie. Consommer moins de matières premières. Donc, ce n'est pas seulement avoir des caddies moins remplis. C'est globalement consommer moins de matières premières. Consommer moins d'énergie et consommer moins d'espace. Laisser des zones où la nature peut prospérer et continuer à avoir son rôle qui est bon pour nous, c'est-à-dire rôle de filtrer l'eau pour qu'elle soit de qualité, pour qu'on puisse la boire, filtrer l'air pour qu'il soit respirable pour nous, de ressources, de réserves de biodiversité, de réserves de gènes pour nos médicaments, pour toutes les molécules dont on a besoin. On est obligé de décroître. Et pour moi, il y a deux manettes. Il y a cette consommation, et puis il y a un truc qui est alors beaucoup plus difficile, qui passe beaucoup moins, mais peut-être un jour, il va falloir qu'on en parle. Il y a la manette aussi de la démographie. Est-ce qu'on peut être 12 milliards d'êtres humains ? On en est 8 actuellement, on est 8 milliards. Est-ce que c'est viable ? Est-ce qu'on pourra tous manger à notre faim ? Et si oui, à quelles conditions ? Et puis, est-ce que la nourriture, c'est la seule condition pour... Enfin, le seul facteur qui doit déterminer le nombre d'êtres humains qu'on peut être sur Terre. Donc, je sais que je vais passer pour le grand méchant, mais à un moment donné, il faut qu'on s'interroge sur ces conditions. Est-ce qu'on doit, par exemple, en France, avoir des politiques natalistes ? Est-ce que c'est raisonnable ? Je ne sais pas.
Pour vous, quelles seraient les solutions que l'être humain doit changer ?
Eh bien, consommer moins. Et puis... arrêter d'avoir des politiques natalistes. Je pense que c'est deux facteurs simples. Arrêter de suivre la mode, sans déconner. Je vois le nombre de vêtements qui sont jetés et qui sont même pas usés, juste parce qu'ils sont plus à la mode. Il faut se déplacer à vélo. Une vie. Alors, on pense que le vélo, par exemple, c'est simplement si je fais 5 km en vélo, c'est 5 km que je fais pas en voiture. Mais c'est un autre impact. Ça rend les villes plus petites parce qu'on n'a pas besoin de grandes routes, on n'a pas besoin de grands parkings. Les villes étant plus petites, on a encore moins besoin d'utiliser la voiture. Il y a aussi le fait de consommer moins de viande. C'est énorme l'impact de la viande. Je dis pas devenir vegan, même si je suis content qu'il y ait des vegans. Moi, je peux pas devenir vegan. J'aime trop les burgers, j'aime trop le foie gras. Il faut en manger moins. C'est clair qu'il faut en manger moins. Un steak de hamburger, donc vous voyez la taille du steak de hamburger, ça correspond à 35 km en voiture au niveau des rejets de CO2. Donc vaut mieux renoncer à ce petit burger hebdomadaire. Faire 35 km en vélo, enfin c'est la même chose en fait. Donc c'est énorme l'impact de la viande. Donc vélo, viande, et arrêter de suivre la mode quoi. Moi j'ai toujours des t-shirts élimés que j'utilise jusqu'au bout, j'ai des t-shirts qui ont 20 ans, c'est pas grave, je les mets encore jusqu'à ce qu'ils en puissent plus quoi.
Ah bah oui, tant qu'ils sont encore en bon état, faut les garder.
Exactement, t'as tout compris.
Radio Pulse. Appuyez là. Ah. Ça fonctionne pas. Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route. Radio Pulse. Chier, merde.
Avec tous ces feux, quels sont les risques pour l'Australie ?
L'Australie, c'est un pays riche. C'est un pays qui peut encore importer de la nourriture. Alors, pour les Australiens, on va dire, pour les Homo sapiens, les risques, ça va être un petit peu pour la santé, à moyen terme, mais ça va être localisé. Il faut aussi dire que c'est la partie la plus peuplée de l'Australie qui brûle. C'est aussi la partie la plus habitable, parce que le reste de l'Australie, c'est un désert. Donc, je pense qu'il n'y a pas de risque pour les humains qui soit vraiment énorme. Par contre, pour les écosystèmes naturels, alors là, là c'est catastrophique, quoi. J'espère qu'il y a des réserves de biodiversité, c'est-à-dire des endroits qui n'ont pas été touchés et puis qui pourront repeupler. Donc, qu'il y a des kangourous qui pourront quitter ces zones-là et aller ailleurs, qu'il y a des eucalyptus qui pourront s'aimer plus loin. Ça, j'espère ça, mais c'est difficile d'établir les risques tant que les feux sont pas arrêtés. Si tout est cramé, là, il y aura plus rien. Il y a peut-être des espèces entières qui vont disparaître, parce que le problème avec l'Australie, c'est qu'il y a des tas d'espèces qui sont endémiques. Les marsupiaux, donc les mammifères qui ont des poches, pour faire simple, c'est qu'en Australie. Donc s'ils disparaissent, c'est fini. De la biodiversité qui est perdue à jamais. Mais ça, on peut pas encore tirer de conclusion, parce que les feux sont pas encore arrêtés. Donc je peux pas te répondre vraiment complètement maintenant.
Tu parles que l'Australie crame totalement, mais il y a des chances à ce que l'Australie brûle totalement?
Non. La zone où ça brûle, elle est séparée du reste de l'Australie par des grandes zones désertiques, où là, il n'y a rien qui va brûler, hein. Il y a du sable. Enfin, ils sont pas complètement désertiques, elles bougent, mais les feux peuvent pas s'étendre indéfiniment. Et puis, il y a l'homme qui va continuer à protéger quand même certaines grandes parties. Donc, l'Australie peut pas cramer entièrement. Ça, c'est pas, faut pas être catastrophiste à ce point-là. Il y a des zones qui sont protégées. Mais alors, des zones naturelles qui abritent certaines espèces ou à vivre seulement là et pas ailleurs, ça c'est possible qu'il y ait des zones qui brûlent entièrement et réduisent, fassent complètement disparaître certaines espèces. Ça c'est possible.
Ouais, donc, je vais en revenir après du coup sur les animaux. Avant de revenir aux animaux, et les risques pour le monde, y en a-t-il ?
Bah oui, pour le monde, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a le CO2 qui va s'éparpiller sur le reste de l'atmosphère et puis qui va contribuer encore au réchauffement climatique. C'est ça le risque principal pour le monde.
Et du coup, pour en revenir aux animaux dont tu parlais qui vivaient dans un endroit spécial,
ouais.
Les feux ont détruit la quasi-totalité du parc national de Flinders Chase sur Kangaroo Island, qui abrite justement des kangourous et des koalas. Ça fait quoi de savoir qu'une île qui abrite justement ces espèces-là risque de partir justement en fumée ?
Alors les kangourous, et puis alors il y a plusieurs espèces de kangourous et les koalas, il y en a sur toute l'Australie. Je sais pas si sur cette île-là, dans ce parc-là, il y a des espèces endémiques. Il y a des espèces qui sont liées seulement à ce parc-là, à cette île-là, à cet écosystème-là. Je sais pas. Mais imaginez qu'un parc naturel brûle entièrement, on a du mal à se le représenter, parce que déjà c'est loin. Faut imaginer, je sais pas, un parc naturel en France. Imaginons que le parc naturel régional Normandie-Maine il brûle en entier. Déjà c'est tout ce qu'il y a tout autour d'Alençon. Si la forêt d'Écouves, la forêt de Persègne, Saint-Cédric, tout ça a été rasé. Vous imaginez les conséquences, déjà morales pour nous. On serait dévasté savoir que toutes les forêts, enfin dans lesquelles j'ai gambadé, forêt des couves, me dire que ça n'existe plus, que Saint-Cénery, là où j'ai fait ma demande en mariage, ça disparaisse. Ça appartient à notre histoire personnelle, mais à notre histoire collective. Mais c'est affreux. Psychologiquement, c'est affreux. Et puis pour l'environnement, c'est affreux aussi, quoi.
Je vais en revenir à ce nombre. 1 milliard d'animaux sont morts dans ces incendies. Ces événements auront-ils des conséquences sur le long terme sur les écosystèmes ?
Alors ça reste localisé à l'Australie, mais les conséquences sur l'écosystème australien, pour résumer, ça serait la disparition probable de certaines espèces qui pourraient pas réapparaître, mais ça, on peut pas tirer de bilan tant que c'est pas arrivé. Les écosystèmes qui de toute façon vont avoir du mal à se repeupler, ça va mettre du temps. Ça, si les espèces disparaissent pas, certaines vont être extrêmement fragilisées et seront sur la liste des espèces en voie d'extinction. Et puis, ça va mettre une pression supplémentaire sur les espaces naturels qui resteront. Alors, un milliard d'animaux qui disparaissent, mais c'est... J'arrive pas à me le...
C'est pas réalisable, on peut pas se dire dans la tête, un milliard, mais c'est trop pour... Enfin, c'est trop... C'est énorme, c'est...
Oui, moi, je fais pas la différence visuellement entre un milliard et un million. Je sais même pas. Je sais pas ce que ça représente, ça. C'est une catastrophe.
Déjà, un milliard, c'est un... Enfin, on l'utilise jamais, quoi. Un milliard, c'est quelque chose qu'on sort presque jamais de notre bouche.
Ouais, c'est ça, parce qu'on n'arrive pas à le visualiser. On n'est pas, ou alors on n'est pas assez riche, on n'est pas si milliardaire. Je sais que les milliardaires et les millionnaires, ils font les différences entre la taille de leur yacht. Il y a une compétition. Tu sais que t'es millionnaire si t'es un petit yacht, si t'es milliardaire, t'es un gros yacht. Ouais, c'est des chiffres comme ça qu'on a, enfin, c'est avec des exemples comme ça qu'on arrive à visualiser. Mais pour les espèces, ouais. Moi, ça m'a, c'est de savoir la différence qu'il y avait entre ce qui avait brûlé en Amazonie et ce qui a brûlé en Australie, c'est là que j'ai pu comprendre. Mais autrement, j'arrive pas à visualiser, quoi.
Et pour ces animaux, justement, quelles solutions peuvent être mises en place pour toi, pour les aider, justement ?
C'est encore des solutions à grande échelle. Consommer moins, moins d'espace, moins d'énergie. Mais chacun, ici, en France, en Normandie, on peut faire des choses pour l'Australie. En consommant moins, chaque geste qu'on fait ici, chez nous, ça a des répercussions sur l'ensemble de la planète. Si on décide d'arrêter de suivre la mode, d'acheter des fringues, de les jeter, même si on dit « oui, mais je les jette au recyclage », ouais, mais il a fallu les concevoir, le recyclage aussi, ça consomme de l'énergie. Chez nous, on peut avoir une influence sur ce qui se passe sur la surface du globe. Donc, on est tous responsables de ce qui se passe en ce moment sur la planète. Consommons moins, c'est vraiment le mot-clé. Et ça passe, c'est un discours qui passe très très mal dans les gros médias, parce que consommer moins, c'est s'opposer à la pub. Si par exemple on veut sauver la planète, la pub qui nous incite à consommer. Mais ça, c'est impossible, ça passera jamais dans les grands médias, ce discours-là.
C'est pour ça que les médias, ils en parlent peu.
Franchement, c'est très probable. Parce que il y a certains médias qui le disent ouvertement, on passera pas d'informations qui nuisent à nos annonceurs. C'est-à-dire où il y a eu le Dieselgate avec une marque de voiture allemande. Il y a un annonceur, enfin il y a une chaîne télé qui a dit bah non, on passera pas aux infos des choses qui disent du mal de cette marque de voiture allemande parce que, donc on passera pas d'infos sur le Dieselgate parce que, eh ben, il y a des pubs pour cette marque de voiture dans notre chaîne. Donc si cette marque de voiture décide d'arrêter de travailler avec nous parce qu'on a dit du mal d'elle, eh ben ils passeront plus de pubs et nous on aura plus d'argent. C'est comme ça que ça marche.
Et pour ces animaux, est-ce que ouvrir un refuge, je parle pas forcément en France, mais ouvrir un refuge, rapatrier ces animaux pour qu'ils puissent justement se remettre de tout ça, ça pourrait permettre justement...
Non. De toute façon, c'est déjà fait dans les zoos. Il y a déjà des kangourous, il y a déjà des koalas, etc. dans les zoos en Europe et à travers le monde. Non. Capturer les animaux, les déplacer, non. Il faut juste s'occuper bien de ces animaux-là, là où ils sont, dans leur pays. Les remettre dans des zones qui ont peut-être pas été touchées, mais même, c'est... Si on les amène dans une zone qui a pas été touchée, ils vont être en concurrence avec les animaux qu'il y a déjà. Pour sauver les animaux, il faut sauver leur écosystème. Il faut pas les déplacer. Il faut sauver leur écosystème. Donc, sauver les arbres, les zones où ils vivent. Mais les déplacer, alors, ça nous paraît quelque chose de bien, d'humain. On a envie de les sauver comme ça. Mais sur le moyen terme, c'est bien sur le court terme, mais sur le moyen terme, c'est pas efficace, en fait. Ce qu'il faut, c'est préserver des zones là-bas. Why does my soul
Eh bien, suite et fin de cette interview de notre ami Eric, animateur de l'émission Pause Vélo, chaque mercredi à 20h sur les ondes de Pulse, il répond aux questions d'Audrey sur les incendies en Australie.
population de koalas de la côte nord-est, apparemment, elle pourrait avoir été décimée de 30 à 40%, ce qui représente entre 4500 et 8400 individus qui ont été touchés par ces incendies.
Ouais, bah c'est navrant, c'est désolant. Je sais pas quoi répondre à ça. Moi, ça m'atterre parce que on n'arrive pas trop à être touché encore en France parce que c'est loin de chez nous. Mais si, je sais pas, on disait la population de cerfs en France a été décimée à 80%, on serait complètement ravagé. Enfin, c'est quelque chose qu'on a du mal à soutenir. On n'arrive pas à le visualiser, ça.
Mais en fait, le problème, c'est que par rapport à ces incendies, les précédents incendies, les koalas, ils montaient tout en haut des arbres pour pouvoir échapper aux incendies. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les feux, ils atteignent le dessus des arbres, en fait.
Eh ouais, donc les koalas, leur premier réflexe, à nous tous, ça serait de s'éloigner des flammes. Mais quand l'arbre, il tombe à terre, le koala, il brûle avec, quoi.
C'est ça. À votre avis, la vie sauvage australienne, donc du coup bien connue pour ses koalas, kangourous, elle va mettre combien de temps pour se reconstruire ?
Alors c'est pareil, il va falloir qu'on attende la fin des incendies. Si y a encore des zones assez larges où il y a de la vie qui a été protégée, ça peut se faire rapidement, mais les koalas, ils ont absolument besoin des eucalyptus. Un oui. Eucalyptus, c'est plusieurs décennies pour pousser, pour que ça, il atteigne plusieurs mètres. Ça va se faire au rythme de reconstruction des écosystèmes, parce que les animaux, ils se remettront seulement si les végétaux se remettent. D'abord, c'est à mon avis, ça peut avoir des impacts sur plusieurs siècles. On sait que des forêts en Europe, pour qu'elles atteignent leur stade mature, c'est plusieurs siècles. Je sais pas si on prenait la forêt des couves, qui est pas une forêt naturelle, qui est une forêt exploitée, mais si on la laissait naturelle, pour qu'elle atteigne son stade climatique, naturel, c'est un siècle et demi. Eh ben, je pense que pour les écosystèmes australiens, ça va être aussi en termes de siècle. Un siècle et demi. Je ne sais pas l'âge mature d'un koala, d'un eucalyptus, je ne sais pas lequel c'est. Je pense à l'eucalyptus, mais certainement d'autres arbres qui sont endémiques d'Australie, qui appartiennent aux écosystèmes australiens. Mais il faudra compter en siècle, ouais.
Mais du coup, le koala vit principalement d'eucalyptus. Mais si les incendies emportent tous les eucalyptus, le koala, il va faire comment ?
Non, là, je ne suis pas catastrophiste à ce point-là. Il y aura des zones où il y aura encore des eucalyptus. Tant qu'il n'y a pas d'eucalyptus, il n'y a pas de koala. Donc, il faudra absolument protéger les eucalyptus, en replanter. Il y aura peut-être des grands mouvements de replantation, mais c'est pareil, on va partir de quoi ? On va partir de graines, donc de la graine jusqu'à l'eucalyptus mature, enfin au moins suffisamment grand pour supporter le poids de koala, il va falloir attendre des dizaines d'années, quoi.
Mais du coup, est-ce que du coup, l'été en Australie, si je me souviens bien, c'est jusqu'en mars à peu près ?
Alors c'est difficile à dire, les saisons sont inversées parce qu'ils sont dans l'hémisphère sud. C'est pas, on va dire que c'est des climats qui correspondraient au climat méditerranéen chez nous, mais c'est dur à dire parce que c'est pas exactement ça, les saisons sont différentes. Je suis pas assez doué en géographie pour te le dire, mais il y a des déserts, il y a des zones plutôt méditerranéennes, donc l'été étant inversé, ça serait, on va dire que ça commence du mois de... il commence à faire vraiment chaud à partir du mois d'octobre chez eux, et puis jusqu'au mois de mars. Donc on n'est pas au bout des incendies, même si à mon avis il va y avoir des politiques drastiques, il va y avoir des choses qui vont être mises en place pour que plus jamais ça se... Enfin, vous dire pour que ça s'arrête le plus vite possible, mais pour que plus jamais ça n'ait lieu. Parce que c'est un traumatisme chez la population australienne, ça, de voir tout son univers brûler, c'est un traumatisme. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses mises en place pour que dans les prochaines semaines, ça s'arrête. Mais c'est vrai que, sachant qu'il va faire chaud jusqu'au mois de mars, on peut avoir peur.
Mais en gros, en fait, il faut attendre la catastrophe pour pouvoir prendre des mesures, en fait.
Tu regardes Fukushima, Il a fallu qu'il y ait Fukushima pour qu'on mette des choses en place contre la prolifération du nucléaire, pour que l'Allemagne arrête ses réacteurs. Il a fallu qu'il y ait les premières catastrophes avec les marées noires pour qu'on prenne un peu au sérieux le problème des transporteurs, des supertankers qui transportent le pétrole. Et à chaque fois, on constate qu'il faut qu'il y ait cette logique de catastrophe pour qu'on réagisse. Si c'est des petits événements qui arrivent étape par étape, on ne réagit pas. Le réchauffement climatique, c'est un phénomène très très lent. On s'y habitue petit à petit, il y a une espèce d'acclimatation. Voilà, on oublie que il y a 30 ans, il y avait de la neige tous les hivers. On oublie ça. Du coup, on s'habitue au fait que, tiens, cet hiver, il n'y a pas eu de neige. C'est ça le problème. On a besoin qu'il y ait un gros coup, qu'on se prenne une grosse claque derrière la tête pour réagir. Sinon, on s'habitue, on laisse faire, ça vient pas. Voilà, il faudrait que tous les pays aient leur catastrophe, un gros coup, pour que tous les pays d'un coup se mettent à réagir. C'est ça qui est effrayant. Mais ça, c'est un problème de la psychologie humaine. On marche comme ça. Et est-ce qu'on pourra régler le problème du climat sans véritable changement de la psychologie humaine? C'est ça qui est effrayant.
C'est vrai que c'est effrayant de se dire qu'on attend la catastrophe avant d'agir.
Bah ouais, mais c'est notre nature profonde. Et c'est ça qui me fait craindre pour l'avenir, parce qu'il faut qu'on change quasiment la nature de notre façon de penser. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce que c'est possible? Ou alors est-ce qu'il faut qu'il y ait une catastrophe dans chaque pays? Est-ce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de morts? Je sais pas. J'ai pas la réponse.
Ça fait peur en tout cas de savoir que... On attend le malheur pour pouvoir faire les choses bien, en fait. C'est triste.
Oui, on a besoin de cette logique-là. Moi, je pense ça, mais j'ai entendu d'autres penseurs, je pense à Paul Ariès, par exemple, qui est un des chantres de la décroissance, qui lui dit non, on devrait... l'homme peut évoluer sans catastrophe. C'est ce qui est peut-être possible aussi, donc je sais pas. Ça me rassurerait que ça soit le cas, d'ailleurs.
Oui, je pense que ça rassurerait tout le monde de savoir ça. Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et de m'avoir fait part de ton point de vue, surtout.
Pas de problème. Et puis, pour sauver l'Australie, faites du vélo.